VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
17h30, en temps universel, Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington. Au micro, Dilidico. Bonsoir. À la une de l'actualité, ce lundi 24 juillet, au Sénégal, au moins 14 corps retrouvés après le naufrage d'une pirogue la nuit dernière au large de Dakar. Le Centre gabonais des élections a publié une liste de 19 candidats à la présidentielle de fin août. En Somalie, un kamikaze a tué au moins 13 soldats dans une académie militaire à Mogadiscio. Élections législatives en Espagne, les conservateurs ont devancé de justesse les socialistes, mais n'obtiennent pas la majorité à l'Assemblée. Ne manquez pas notre rubrique sport et la Minute Écho, mais tout d'abord, le journal. Le Sénégal fait face à un nouveau drame en mer avec des jeunes qui tentaient de rejoindre les îles Canaries. Au moins 14 corps sans vie ont été retrouvés ce matin au large de Dakar. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
La marine a obligé la pirogue à accoster et des gens se sont enfuis. Certains ont sauté mais ne savaient pas nager, a déclaré Samba Kandji, maire adjoint du quartier de Wakam à Dakar. Le nombre de personnes qui se trouvaient dans la pirogue n'est pas encore connu. M. Kandji affirme que ce sont des migrants a priori. Gendarmes et pompiers ont continué les recherches. Deux personnes ont été secourues, d'après un responsable de la gendarmerie. Selon plusieurs témoins, la pirogue en bois flotte près de la berge. L'immigration clandestine vers les Canaries, archipel espagnol et porte d'entrée vers l'Europe dans l'océan Atlantique, connaît un regain d'activité. Au moins 13 migrants originaires de Rufisque, non loin de Dakar, sont morts dans le naufrage de leur embarcation il y a environ une semaine. Un autre bateau a chaviré à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, faisant au moins 14 morts. Jeudi, en Conseil des ministres, le président Macky Sall a demandé au gouvernement d'intensifier les contrôles au niveau des zones et des sites potentiels de départ.
Au Cameroun, l'effondrement d'un immeuble d'habitation à Douala a fait au moins 33 morts et 21 blessés, selon un bilan toujours provisoire. Des habitants du quartier pointent les défaillances du bâtiment. Dans la nuit de samedi à dimanche, un immeuble résidentiel de 4 étages situé dans le nord de Douala s'est effondré sur un autre bâtiment d'un étage. Human Rights Watch a accusé ce lundi les forces armées maliennes et des combattants étrangers assimilés aux paramilitaires russes du groupe Wagner d'avoir exécuté des dizaines de civils dans le centre du Mali depuis décembre 2022 lors d'opérations anti-djihadistes. Ces abus ont été commis lors d'opérations militaires menées contre des groupes armés islamistes dans les villages de Wenkoro, Séguéla, Sobé-Sobé, Tiofol, dans le centre, selon l'ONG Human Rights Watch. Le Centre gabonais des élections a publié une liste de 19 candidats sur 27 enregistrés à l'élection présidentielle fin août. Le président sortant, Ali Bongo Ondimba, brigue un nouveau mandat face à une opposition divisée. Le point avec Nanit Talani.
Le chef de l'État sortant, Ali Bongo Ondimba, à la tête du Parti démocratique gabonais, fera face à 18 candidats, dont Alexandre Barrault-Chambrier, surnommé ABC, du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, et Paulette Missombo, de l'Union nationale. Les deux opposants participent à une coalition Alternance 2023 qui espère fédérer une candidature commune d'ici le 26 août. La coalition de l'opposition dénonce la mise en place d'un plafond de 3 observateurs maximum par bureau de vote quand l'ancienne loi électorale permettait à chaque candidat de désigner un représentant par bureau. Autre pomme de discorde, la suppression de l'enveloppe dans laquelle les électeurs plaçaient les bulletins rejetés et qui était jointe à celle contenant le bulletin du candidat de son choix. Alexandre Barrault-Chambrier condamne la suppression de ce qu'il considère comme un garde-fou contre la fraude. La campagne électorale officielle va se dérouler du 11 au 25 août à minuit. Les élections législatives et locales se tiendront aussi simultanément le 26 août.
Au Nigeria, les autorités prévoient un enterrement de masse pour 103 victimes mortes en octobre 2020 lors du mouvement contre les violences policières et dont les corps n'ont pas été réclamés à la morgue de Lagos. Amnesty International a exigé des autorités qu'elles renoncent à leur projet d'enterrement collectif. Des manifestations dans les grandes villes du Nigeria pour dénoncer les brutalités policières ont pris fin quand l'armée et la police ont ouvert le feu le 20 octobre 2020 au péage de Lekki à Lagos. Au Soudan, l'armée annonce que 9 personnes, dont 4 soldats, sont mortes hier soir dans le crash d'un avion civil à Port-Soudan, le seul aéroport fonctionnel du pays, sur la côte est épargnée par la guerre. Par ailleurs, un comité de quartier à Khartoum a lancé à la population un appel urgent aux dons de nourriture pour survivre. En raison des combats à Khartoum, des millions d'habitants se retrouvent bloqués chez eux, certains sont privés d'eau, n'ont presque plus de nourriture et l'électricité ne vient que par intermittence. En Somalie, une attaque perpétrée ce lundi par un kamikaze a entraîné la mort d'au moins 13 soldats et blessé au moins 20 personnes à l'intérieur d'une académie militaire à Mogadiscio, selon un soldat qui a vu les corps. Le groupe Al-Shabaab a revendiqué l'attaque. Le point avec Eric Manirakiza.
L'attentat à la bombe de ce lundi a visé l'académie militaire Djal Siad, un soldat de l'hôpital militaire de Mogadiscio qui n'a donné que le nom d'Ahmed, a déclaré qu'il a vu les corps de 13 soldats tués et de 20 autres blessés dans l'explosion. Les victimes étaient originaires de la région de Lawa Chabel et étaient venues dans la capitale pour s'entraîner, a déclaré le capitaine Ali Farah. Les soldats étaient comptés dans la file d'attente lorsque le kamikaze s'est fait exploser, a déclaré M. Farah. Al-Shabaab a déclaré dans un communiqué que le kamikaze a tué 73 soldats et a blessé 124 autres. Ces dernières semaines, les combattants d'Al-Shabaab ont intensifié leurs attaques alors que la campagne militaire est temporairement suspendue en préparation d'une deuxième phase de l'offensive.
En Algérie, 15 personnes ont été tuées par des incendies de forêt et 26 autres blessées dans les régions montagneuses de Béjaïa et Bouira, selon le ministère de l'Intérieur. Il ajoute que des opérations sont en cours pour éteindre l'incendie. Les températures ont d'ailleurs atteint 50 degrés Celsius en Algérie et en Tunisie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Espagne, le parti du Premier ministre Pedro Sanchez a perdu les législatives de dimanche. Les conservateurs ont devancé de justesse les socialistes, mais n'obtiennent pas la majorité à l'Assemblée. Les tractations vont commencer entre M. Sanchez et son rival Alberto Núñez Feijóo pour éviter de nouvelles élections. Moramadou Mfa.
Le parti populaire d'Alberto Núñez Feijóo arrive en tête avec 136 sièges sur un total de 350 au Congrès des députés, alors que le parti d'extrême droite, Vox, son seul allié potentiel, gagne 33 sièges. La droite et l'extrême droite totalisent 169 sièges, loin de la majorité absolue qui est de 176. En face, le parti socialiste de M. Sanchez dispose de 122 députés et Sumar, son allié de gauche radicale, remporte 31 sièges. Le Premier ministre conserve une chance de se maintenir au pouvoir, car il y a même d'obtenir le soutien des partis basques et catalans. La plupart des sondages donnaient le parti d'extrême droite, Vox, dans ce rôle, mais c'est finalement l'indépendantiste catalan Carl Puigdemont qui pourrait devenir le faiseur de roi. M. Sanchez pourrait alors rassembler 172 députés, ce qui lui suffirait lors d'un deuxième vote d'investiture par le Parlement, où seule une majorité simple est requise. Dans le cas contraire, l'Espagne, qui a déjà connu 4 élections entre 2015 et 2019, devrait à nouveau tenir un scrutin.
Le Parlement israélien a voté lundi une mesure clé du projet de réforme judiciaire porté par le gouvernement de droite. Cette mesure qui vise à limiter la possibilité pour la Cour suprême d'invalider une décision du gouvernement a été approuvée par les 64 députés de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou sur un total de 120. Les élus de l'opposition ont boycotté le vote. La police a dispersé avec des canons à eau des centaines de personnes qui bloquaient l'entrée du Parlement à Jérusalem. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. Maintenant, la Minute Éco, un condensé des nouvelles économiques avec Mouramadou Mfa.
Au Ghana, la ministre de l'assainissement et de l'eau, Cecilia Abenadapa, a été arrêtée ce lundi. Selon les documents du tribunal, deux employés de maison auraient volé l'année dernière 1 million de dollars, 300 000 euros et des millions de cédis ghanéens dans sa chambre à coucher. Dans un communiqué publié samedi, Mme Dapa a présenté sa démission tout en niant que des sommes aussi importantes aient été volées chez elle. Un sommet de trois jours de l'ONU s'est ouvert lundi à Rome avec pour objectif de s'attaquer au système alimentaire mondial défaillant. Le nombre de personnes souffrant de faim chronique a augmenté de 122 millions au cours des trois dernières années, selon les Nations Unies, qui demandent au moins 500 milliards de dollars par an pour aider les pays en voie de développement à investir dans les systèmes alimentaires. L'Afrique subsaharienne va enregistrer la plus forte croissance mondiale du trafic des données mobiles d'ici 2028, a indiqué dans un rapport le géant suédois des équipements et des télécommunications Ericsson. Le rapport souligne que cette croissance sera principalement tirée par l'augmentation de l'adoption des smartphones et les investissements massifs dans le déploiement des réseaux 4G et 5G dans la région.
Place au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Dili, bonsoir à tous.
Nous commençons par les nouvelles du mondial féminin. Le Maroc, corrigé par l'Allemagne.
Oui, début douloureux pour leur première Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas ont été laminés par l'Allemagne, vice-championne d'Europe 2022, 6-0. Portée par leur attaquante star Alexandra Popp, qui a inscrit un doublé, les Allemands ont écrasé le Maroc dans un match à sens unique. Grâce à cette victoire, elles prennent la tête du groupe H et renforcent plus que jamais leur statut de favorite de cette Coupe du Monde. De leur côté, les Brésiliens ont disposé du Panama 4-0. Le Brésil prend seul la tête du groupe F, 2 points devant la France après son nul dimanche face à la Jamaïque 0-0. L'Italie a quant à elle peiné pour s'imposer face à l'Argentine 1-0, sauvée par un but inscrit en toute fin de match par Cristiana Girelli de la tête à la 87e minute.
C'est un début de compétition timide pour les représentants africains dans l'ensemble.
Un seul nul obtenu par le Nigeria 0-0 face au Canada, sinon rien que des défaites. La Zambie a pris l'eau 5-0 contre le Japon. L'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre, y a cru avant de céder dans les derniers instants du match, battu 2-1 par la Suède. Les deux équipes ont l'obligation de se relancer. Mercredi, les Zambiennes jouent l'Espagne et les Sud-Africaines croisent l'Argentine le vendredi.
Les compétitions africaines des clubs reprennent dans quelques semaines. Certains clubs sont en pleine préparation.
C'est le cas du club béninois Loto Popo qui a affronté hier dimanche en amical dans son stade à Grand Popo la sélection locale du Togo qui se prépare pour le CHAN. L'équipe hôte s'est inclinée 1-2. Loto Popo connaîtra demain mardi son adversaire du premier tour de la CAF dont le tirage au sort aura lieu au Caire ou en Égypte. Les dates de ce tour préliminaire sont connues. Les matchs allés auront lieu entre le 18 et le 20 août et ce retour entre le 25 et le 27 août.
Parlons transfert à présent. Le temps des négociations a débuté pour Kylian Mbappé.
Le PSG a commencé à recevoir des marques d'intérêt pour son attaquant vedette, dont une du Real Madrid. Le club saoudien d'Al Hilal a été autorisé à négocier avec Kylian Mbappé sur la base d'un transfert à 300 millions d'euros. Vendredi, le PSG a annoncé la mise à l'écart du champion du monde 2018 privé de stage en Asie. Mbappé évoque depuis longtemps son envie de rejoindre un jour le Real Madrid. Jusqu'alors, la Maison Blanche était en position de spectatrice du bras de fer engagé entre Mbappé et le PSG. Le géant madrilène comptait plutôt récupérer le joueur libre en juin 2024 avec une prime à la signature colossale pour lui. Le joueur avait dit vouloir honorer sa dernière année de contrat avant de quitter Paris, ce qui a poussé le club de la capitale à réagir. Soit il prolonge, soit il doit être transféré dès cet été. Le patron du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a martelé à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas le voir partir gratuitement.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Dilly Dico, de retour avec vous. Passons à notre tranche magazine. Au Sénégal, une pirogue transportant des migrants a échoué à Wakam, en plein cœur de Dakar. Plusieurs corps sans vie ont été repêchés par les sauveteurs, appuyés par des pêcheurs locaux. Un drame de plus dans la récente recrudescence de l'émigration clandestine. Notre correspondant à Dakar, Sédina Abagué, fait le point.
Sur la plage de Wakam, à quelques mètres du domicile du président Macky Sall, sur la corniche ouest de Dakar, une pirogue transportant des migrants a échoué la nuit dernière. Les sapeurs-pompiers, qui ont été les premiers sur les lieux, ont repêché une quinzaine de corps. Mamoudou Seck, pêcheur établi à Wakam, témoigne.
Les sapeurs-pompiers sont venus avec leurs équipements, des plongeurs, et ils ont vraiment fait le nécessaire. Les jeunes pêcheurs et plongeurs qui étaient de la localité se sont joints à eux et ils ont repêché plusieurs corps. Pour être précis, ils ont repêché 15 corps sans vie. Il faut aussi préciser que personne ne connaît l'origine du drame et que la pirogue n'était pas de Wakam. Il n'y a ni nom ni immatriculation sur la pirogue, mais juste un drapeau. Et je pense que les autorités feront le nécessaire pour identifier son propriétaire.
Souvent pointés du doigt, les pêcheurs se défendent d'être les marchands de la mort. Pour eux, l'immigration clandestine est un phénomène accentué par des affairistes. Elhadj Abdoulaye Sall est un pêcheur d'une trentaine d'années.
Nous sommes nés et avons grandi ici. Nous ne connaissons que la mer et ailleurs vous nous avez trouvés en train d'exercer notre métier. Ce phénomène doit interpeller l'État parce que ce sont des enfants qui meurent. Des mesures doivent être prises pour y remédier, mais il ne faut pas rejeter la faute sur les pêcheurs car nous sommes ici en train de travailler à la sueur de notre front.
Alors que beaucoup de Sénégalais considéraient le phénomène de l'immigration clandestine comme un vieux souvenir, elle semble avoir repris de plus belle ces derniers temps et inquiète une population choquée par ce drame qui s'est produit au cœur de la capitale. Seydina Bagui pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24. Au Nigeria, près de deux mois après la suppression des subventions sur le carburant, les prix de l'essence à la pompe sont à leur niveau le plus élevé de l'histoire du pays, le plus grand producteur de pétrole du continent. Les Nigérians se plaignent des conséquences de cette hausse alors que le pays fait face à une inflation croissante. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Cette nouvelle augmentation des prix de l'essence à la pompe est la deuxième la plus significative depuis le 29 mai quand le président Bolamé Tinubu a annoncé la fin des subventions sur le carburant. La station-service Ring Oil de Gwarimpa, à la périphérie d'Abuja, ne connaît plus les longues files d'attente pour se procurer du carburant. Les automobilistes réagissent.
C'est très élevé. Il n'y a aucun moyen d'acheter du carburant à ce prix et survivre. Comment pouvez-vous survivre alors que vous avez une famille, des enfants qui vont à l'école, vous devez les nourrir, vous devez acheter des pneus et réparer votre voiture. Vous ne pouvez pas survivre. Donc, ce gouvernement devrait revoir à la baisse ce prix à au moins 350 naira. À 617 naira, c'est trop élevé. C'est beaucoup trop cher.
Nous avons déjà des problèmes et ils viennent en rajouter d'autres. L'augmentation des prix du carburant n'est pas la meilleure solution pour la situation économique du Nigeria en ce moment. S'il est possible pour M. le Président de revoir certaines de ses politiques parce qu'il vient de commencer son mandat.
Le prix de l'essence a presque triplé dans tout le pays. Dans les stations d'essence, il est passé de moins de 200 naira le litre à plus de 600 aujourd'hui. Cette augmentation alimente encore les discussions au sein de la population. Outie Nadji est chauffeur de taxi à Abuja.
La pression est tellement forte sur chaque famille en ce moment. En tant que chauffeur de taxi, je sais combien j'avais l'habitude de payer pour faire le plein. Avec 9000 naira, je faisais le plein de cette voiture. Et puis, je gagnais encore plus pour prendre soin de ma famille. Maintenant, vous savez, ils ont dit qu'ils ont supprimé la subvention. Puis nous nous sommes plaints et ils ont dit que tout ira mieux et nous avions accepté. Pourquoi cette nouvelle augmentation soudaine?
Les syndicats nigériens ont exprimé leur indignation face à la hausse du prix du carburant et ont menacé de se retirer des négociations avec le gouvernement fédéral à moins que les prix ne soient inversés. La subvention sur le carburant a été introduite dans les années 70, permettant jusqu'au 29 mai dernier de maintenir les prix bon marché pour des millions de Nigériens. Au fil des années, les subventions ont coûté plusieurs milliards de dollars à tous les gouvernements. Charles Abayomi, expert en pétrole.
I think it is imperative that the subsidy be removed.
Je pense qu'il est impératif que la subvention sur le carburant soit supprimée. Je le ferai par étapes si j'étais à sa place. Je le ferai ayant à l'esprit que le choc drastique que les Nigériens connaissent dans le secteur pétrolier n'entraîne pas la crise sociale que beaucoup craignent maintenant.
Les coûts de transport et les prix des denrées alimentaires ont continué de grimper. Tout est devenu plus cher avec la hausse du prix de l'essence. En juin, la consommation moyenne d'essence est tombée à quelque 48 millions de litres par jour, contre une moyenne quotidienne de presque 67 millions de litres en janvier, avant la suppression de la subvention. Gilbert Tamba, VOA Afrique, Abuja.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Un groupe de 25 jeunes venant de 18 pays d'Afrique subsaharienne a rendu visite à une ferme agricole dans le Maryland dans le cadre du programme Yali. Après avoir participé à des activités dans les champs, ils ont cuisiné des plats africains, le tout accompagné de musique. Un reportage de Lionel Gaïma et Eric Manirakiza.
Lorsque ces jeunes arrivent à la ferme Florencia, ils sont chaleureusement accueillis par l'agriculteur Jean-Bert Kimas Manirakiza, qui est également le responsable de la ferme. À l'image du Mandela Day, qui s'appuie sur une invitation à consacrer 67 minutes de son temps au service des autres en reconnaissance aux 67 années consacrées par Nelson Mandela au service de l'humanité, ces jeunes leaders africains se lancent avec joie dans diverses activités économiques. Emmanuel Rwamba vient du Burkina.
Et en venant ici, eh bien, on découvre aussi qu'aux États-Unis, eh bien, il y a des agriculteurs qui ont des façons de faire qui sont similaires, d'accord, à ceux de l'Afrique. Et donc, ça a été vraiment un réel plaisir de venir prendre part ici dans ce community service, eh bien, à l'agriculture qui est faite ici. C'est une façon à nous aussi, eh bien, de redonner à la communauté ce qu'elle nous a donné aussi de par la participation à ce programme.
Au fur et à mesure que la journée avance, une ambiance vibrante et joyeuse s'empare de la ferme. Guidés par leur enthousiasme, ils sont désormais déterminés à utiliser leurs connaissances et leurs expériences acquises pour contribuer au développement de leurs communautés respectives. Suivez respectivement Maounou Bédé du Bénin et Roselyne Tetchi de la Côte d'Ivoire.
En tant que nutritionniste, ça a été pour moi un grand plaisir de pouvoir visiter une ferme aux États-Unis. Une fois de retour au pays, d'abord même mon projet ici, c'est de voir comment faire pour aider les communautés à davantage lutter contre la malnutrition, à davantage lutter pour avoir une sécurité alimentaire.
Oh wow, c'est assez grand. Tout ce qu'il fait, c'est smart. Moins d'efforts physiques, mais une bonne production. Ce qu'ils utilisent pour produire, ce qu'ils utilisent pour irriguer, c'est assez smart, je pense. L'une des limites, peut-être c'est le coût d'acquisition, mais c'est des techniques dont on a besoin pour booster la production en Côte d'Ivoire, pour augmenter, accroître la production en Côte d'Ivoire, parce qu'on importe beaucoup.
Certains désireux de mettre en valeur leur héritage africain décident de préparer des plats traditionnels de leurs pays respectifs. Ndeye Bana Diop
et sénégalaise. Et
là, je suis en train de préparer du riz à la viande, communément appelé ici jollof rice, la version sénégalaise.
L'air se remplit de délicieuses saveurs exotiques, alors que les épices se mêlent aux arômes alléchants. La musique africaine résonne dans l'air, égayant les cœurs et invitant chacun à la danse. Ils repartent de la ferme avec des sourires inoubliables, des amitiés renforcées et un esprit de solidarité à cultiver la terre avec respect et à créer des ponts d'amitié qui transcendent les frontières.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Des températures records devraient se poursuivre cette semaine dans plusieurs régions du monde. Les scientifiques lient les conditions météorologiques extrêmes au changement climatique. Le pape François a exhorté les dirigeants mondiaux à le combattre. Le point avec Véronica Balderas Iglesias. Récit Yacouba Ouedraogo.
De l'Espagne au Liban, aux États-Unis, la chaleur bat des records cet été. L'Organisation météorologique mondiale l'attribue au réchauffement climatique.
Bonjour.
Dimanche, le pape François a évoqué les souffrances causées par le changement climatique aux nombreux êtres vivants sur la planète et l'urgence de le combattre.
Je renouvelle mon appel aux dirigeants des nations pour qu'ils puissent faire quelque chose de plus concret pour éliminer les émissions polluantes. C'est un défi urgent qui ne peut être différé, il concerne tout le monde. Protégeons notre maison commune.
Les populations sans logement et tous ceux qui ne sont pas habitués à de longues périodes de température torride pourraient être à risque, a averti le maire de Palm Springs, en Californie, Grace Elena Garner, qui a été interviewée par ABC News.
Lorsque votre corps n'est pas habitué à ces températures élevées, il peut subir un choc. Si nous ne nous assurons pas de mettre en place les actions dont nous avons besoin pour réduire les impacts du changement climatique, nous allons simplement voir la situation empirer.
Interrogé lors de l'émission This Week sur la chaîne ABC, si le changement climatique est une menace pour la sécurité nationale, le député républicain Michael McCaul a répondu
« Le climat change et quand vous êtes dans une zone aride, l'Afrique par exemple devient de plus en plus aride, ce qui aggrave la famine, le terrorisme. »
La semaine dernière, la Chine et les États-Unis, les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, on reprit les pourparlers sur la manière de résoudre le problème, mais il n'y a pas eu de solution. Il faudra un effort concerté pour faire avancer les choses, selon le gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee, dans l'émission This Week d'ABC.
C'est un problème qui peut être résolu, mais nous devons cesser d'utiliser des combustibles fossiles. C'est la seule solution à cet assaut massif contre l'humanité.
Les prévisionnistes s'attendent à ce que les vagues de chaleur se poursuivent encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans diverses parties du monde.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Joselle Morissin, Dili Dico à la présentation. Merci à toute l'équipe de production et merci à vous pour votre fidélité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voafrique.com et sur nos plateformes Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa,
Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.